Bernard Hébran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général délégué de Invesco AM. On va parler de marché financier avec vous et de stratégie sur ces marchés. Bien entendu, tout le monde s'interroge ou essaye de traduire ce qu'a dit la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, l'horizon s'éclaircit?
Alors là, nous parlons au lendemain littéralement de la dernière déclaration de Mme Yellen et du comité de politique monétaire, où elle a annoncé une grande première qui est la diminution progressive du programme d'assouplissement quantitatif, le fameux quantitative easing qui avait été mis en place il y a maintenant plusieurs années, dont aucune grande banque centrale jusqu'à présent n'était sortie pour le moment. Donc elle a annoncé quand même une grande première un petit peu historique. Et ça a été très très bien digéré par les marchés. Il faut dire que les marchés avaient été mis en condition, avaient été préparés par un bombardement de déclarations d'un grand nombre d'officiels de la Réserve fédérale. Et donc hier, on a eu cette annonce. Voilà le bilan de la Réserve fédérale, le bilan de la Banque centrale va commencer prochainement à diminuer progressivement. Alors ça ne va pas être massif et immédiat, ça va être progressif. Néanmoins, ça va commencer et c'est destiné à durer dans le temps. Deuxièmement, une hausse des taux d'intérêt a été réaffirmée pour cette année 2017. Les marchés n'y croient toujours pas. Vous savez qu'on a des moyens de regarder sur les...
C'est ça, il y a, même s'ils croient à la Réserve fédérale américaine, ils ne croient pas en tout cas à cette partie sur la hausse de taux cette année.
Voilà, quand on regarde les marchés dérivés sur les taux d'intérêt, on a des moyens d'en déduire les probabilités de hausse des taux. Mais aujourd'hui, les probabilités de hausse des taux en 2017, donc cette année, sont très très faibles et tout le monde attend des hausses des taux quelque part vers la fin de 2018. Alors que ce n'est pas du tout ce que dit le discours de la Réserve fédérale. Bon. Donc là-dessus, il y a encore probablement un peu de discours à réajuster. Néanmoins, la première réaction de tous les marchés, qu'ils soient actions ou bien de taux ou bien de devises, a été très modérée, voire plutôt positive. Donc jusqu'à présent, c'est plutôt un pas important qui a été franchi en termes de communication et bien franchi par la Réserve fédérale.
Sur la partie taux, si les marchés n'y croient pas, est-ce que c'est lié à la conjoncture américaine, peut-être encore un peu indécise, on pourrait ajouter que toutes les dégâts climatiques des ouragans, peut-être c'est difficile aujourd'hui de chiffrer l'impact économique à venir finalement.
Oui, alors il y a effectivement ce type d'incertitude. Il y a aussi l'inflation qui est pour beaucoup de banques centrales, dont la Réserve fédérale, l'objectif prioritaire ou l'un des objectifs prioritaires. Cette inflation aux États-Unis reste en dessous du niveau un peu cible de 2%. Elle ne parvient pas à augmenter beaucoup selon la plupart des mesures habituelles. Et donc de ce point de vue-là, c'est une des raisons pour lesquelles la crédibilité de la hausse des taux est considérée comme assez faible par pas mal d'intervenants. En revanche, la Réserve fédérale est toujours très claire dans sa communication. Elle veut monter ses taux cette année 2018. Donc là, on a encore un peu plus de pédagogie à faire, visiblement.
Donc là, on verra effectivement ce qu'il en est dans les prochains mois et si ça peut changer un peu le regard des investisseurs. Si on se place du côté des marchés européens, qu'est-ce que ça change, ce que commence à dire la Fed et ce que va faire la Fed?
Alors, visiblement, la communication des banques centrales, BCE d'un côté, Réserve fédérale de l'autre, a été assez coordonnée. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore eu le discours de la BCE, de Mario Draghi, qui devrait annoncer, lui, la réduction de ses achats de titres. Donc c'est un petit peu le niveau d'avant dans la sortie du quantitative easing. Enfin, c'est quand même un moment important. Tout le monde attend que la BCE commence à réduire ses achats de titres prochainement. Ce seraient des mouvements coordonnés. Pour le moment, la conséquence directe qu'on pourrait attendre pour l'Europe et la zone euro en particulier, ce serait du point de vue de la devise. L'euro s'est fortement apprécié cette année 2017, plus d'une quinzaine de pourcents en 9 mois, c'est quand même beaucoup. Ça a pour le moment eu peu de conséquences visibles dans les résultats des entreprises, qui sont toujours très fermes en zone euro, qui continuent d'être revues à la hausse. Néanmoins, on sait, et ça a été dit occasionnellement par quelques officiels de la Banque Centrale Européenne, que l'euro commence à être quelque chose qui regarde et qu'il ne faudrait pas que ça s'apprécie trop.
Autres marchés qui peuvent être concernés par ce qui se passe aux États-Unis, ce sont les marchés émergents qui ont plutôt bien performé d'ailleurs au cours des derniers mois. Les investisseurs ont fini par ne plus avoir peur de ces marchés. Est-ce que ces marchés émergents, comment on les voit aujourd'hui justement pour les investisseurs?
Alors c'est vraiment la classe d'actifs et actions et obligataires qui a performé très très fort en 2017 sur les 3 premiers trimestres. en partie pour de vraies raisons, c'est-à-dire qu'il y a des vrais bénéfices qui augmentent vraiment, il y a des environnements économiques qui soutiennent ça en termes et de croissance et de conditions monétaires et de niveau d'inflation également qui reste très faible. Donc on a des banques centrales qui sont plutôt accommodantes dans une grande partie du monde émergent. On a vu aussi, chose intéressante, que toutes les tensions politiques ou géopolitiques qu'on a pu avoir cette année, il y en a eu un certain nombre quand même, finalement n'ont quasiment pas pesé sur ces économies, en tout cas sur ces marchés qui sont en première ligne. Si vous vous souvenez, les quelques fois où des missiles nord-coréens ont survolé des régions asiatiques, finalement les marchés ont réagi très très modérément. Le marché coréen lui-même est pas loin de ses plus hauts à l'heure où nous parlons. Donc on a une vraie résistance, largement parce qu'on a des vrais résultats des sociétés et des valorisations qui sont finalement assez raisonnables. On a une performance très très élevée, mais qui était un reflet des bénéfices des sociétés. Donc là, pas trop d'exubérance pour le moment.
Oui, parce que c'est aussi une des questions, comme on a avec des fois le temps automnal qu'on a ici, on se pose des questions sur les marchés en se disant, voilà, l'automne arrive, les investisseurs, finalement, c'est pas ne voient aucun risque, mais mettent quand même beaucoup de risques de côté. Vous parliez du risque géopolitique, peut-être un relèvement de taux plus important que prévu, ou des mouvements plus. Et aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, y a pas de risque sur ces marchés.
Alors évidemment, quand on commence à dire ça, c'est que c'est un vrai risque. Il y a probablement un certain nombre de facteurs très techniques et matériels derrière cet appétit effectivement pour le risque que vous signalez et qu'on voit, qu'on constate. Il faut se rappeler que la plupart des moteurs de gestion du risque qui sont utilisés par les grands fonds de pension, les fonds de placement et les banques d'investissement reposent sur des notions comme la volatilité passée. Alors on regarde, vous voyez, la volatilité des marchés sur une période passée qui peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais souvent pas beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde depuis la volatilité, depuis je sais pas quoi, 2013, 2014, 2015, elle a été très faible. Donc les modèles de gestion du risque, ils disent quoi? Ils disent, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre du risque, parce que même si ça décale, ça va décaler un peu comme sur les 3, 4, 5 dernières années, c'est-à-dire pas beaucoup, donc allons-y. En plus, en face, si on va pas les investisseurs en général ne vont pas sur des marchés risqués, ils se retrouvent sur des actifs qui ne rémunèrent pas, voire qui ont une rémunération négative. Donc là-dessus aussi, les investisseurs de tout type sont poussés vers des investissements plus risqués en principe. Et donc on a vraiment tous ces facteurs et techniques et de coûts d'opportunité à aller ailleurs qui poussent tout type d'investisseurs vers ces marchés, même si pour le moment on a. C'est vraiment un mouvement général. Quand vous regardez les flux, vous avez énormément de collectes sur les marchés obligataires, sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers. En gros, c'est le reflet symétrique de l'énigme qu'interroge un certain nombre d'économistes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation? Quand on parle d'inflation, c'est généralement sur les biens et services. Effectivement, cette inflation-là, elle est très faible, malgré tout ce qu'on peut regarder sur la croissance économique, la quantité de monnaie, etc. Cette inflation est très faible. Simplement, l'inflation n'est plus sur les biens et services, elle est sur les actifs. Tous les actifs ont monté un petit peu en même temps, ils continuent à monter. Vous n'avez qu'à regarder les petites annonces pour acheter des appartements dans une agence immobilière. On est vraiment sur des niveaux très très élevés en général. Et de ce point de vue-là, le changement de politique des banques centrales, s'il devait faire bouger les taux d'intérêt longs, ce qui pour le moment n'a pas été le cas, s'il devait faire bouger les taux d'intérêt longs, ces changements de politique monétaire pourraient avoir des conséquences. Mais c'est vraiment un horizon plus long, et si on parle de la fin de l'année, pour le moment, ce n'est pas encore la problématique.
Merci Bernard Ebrant.